En pensant à ce premier lundi de mon incarcération, j'étais soulagé d'imaginer qu'une semaine était déjà finie. Mais comment expliquer ce paradoxe ? Les heures s'écoulaient lentement, les journées étaient parfois interminables, mais la semaine avait filé à vive allure. Au fond, dans notre rapport au temps, la vie était la même en prison qu'à l'extérieur. L'ensemble passait à la vitesse de la lumière, alors même que j'avais le sentiment d'avoir vécu une succession de moments qui m'avaient paru sans fin. Je m'apprêtais à quitter ma cellule à la fin de la matinée quand une jeune directrice adjointe, que je n'avais encore jamais rencontrée, est venue à moi, l'air bien embarrassée. « Je crois qu'il vaudrait mieux que vous renonciez à votre activité sportive et demeuriez dans votre cellule. Deux députés sont en train de visiter la prison. Si vous ne souhaitez pas les rencontrer, ne sortez pas. » J'étais interloqué. Qui étaient ces parlementaires ? La directrice ne le disait pas. Elle semblait dépassée par les événements qui venaient de lui tomber dessus. Chaque fois que je lui posais une question sur ce qui était en train de se passer, elle souriait, gênée et mutique, craignant visiblement de trop en dire. Je n'insistais pas, ne voulant pas l'embarrasser. Je renonçais donc au sport et téléphonais à Christophe Ingrin pour tenter d'en savoir davantage. Il était, lui, parfaitement au courant, par les médias, qui canonnaient sur le thème des deux parlementaires de la France insoumise présents à la santé avec un journaliste et un photographe. Leur dessein était clair. Me voir, me photographier et surtout vérifier que je ne bénéficiais pas d'avantages indus. Mais lesquels ? Ma cellule était celle des autres détenus. Elle n'avait pas été construite pour moi. Mon quotidien était le même, si ce n'est que mon régime était plus sévère. Ainsi, à la différence du quartier des personnes vulnérables ou VIP, ma porte était constamment fermée. Je ne pouvais jamais quitter ma cellule et déambuler dans le couloir. J'avais plutôt moins de droits que les autres détenus. Mon avocat me conseilla de n'avoir aucun contact avec ces élus, dont vous n'avez rien à attendre. Ils ne cherchent que la polémique. Son avis me conforta dans la décision de ne pas accepter la moindre rencontre. Je demeurai ainsi dans ma cellule à attendre que les choses passent. Il y avait donc des gens qui mettaient le combat politique avant la dignité minimale qui aurait dû consister à respecter l'intimité d'un homme en prison. Le journal Le Monde, autrefois, un quotidien qui faisait autorité, avait envoyé un photographe dans les bagages de la France insoumise pour voler une photo de moi emprisonné. Quand je pensais aux leçons de démocratie, de morale, de déontologie, de respect des droits de l'homme que ce journal a coutume d'adresser à la terre entière, c'était risible. Il y avait de quoi en avoir le cœur au bord des lèvres. Ce comportement était, au mieux, digne de ces tabloïdes qui vendraient leur âme pour le moindre écho à scandale. Le Monde était tombé bien bas depuis longtemps, mais là, il était vraiment dans le caniveau. Difficile de faire pire. Les révolutionnaires au petit pied se croyaient donc à la prison du Temple pour harceler le roi et la reine déchue. Il y aurait eu une guillotine en place de grève comme au XVIIIe siècle. Ils seraient venus se repaître du spectacle des têtes qui roulaient dans la boue au rythme des pulsions de folie meurtrière de Marat, de Danton et de Robespierre. Comment pouvait-il en être arrivé là ? N'étant pas certain de la qualité de leur connaissance historique, je ne pouvais même pas leur reprocher d'avoir oublié que les révolutionnaires sont toujours dévorés par leur révolution. Peut-être ne l'ont-ils jamais su. Alors, rappelons-leur que Marat fut assassiné, Danton fut exécuté à la demande de Robespierre et ce dernier à la demande de tous les autres. C'est ainsi que finissent toujours les exaltés de la violence, de l'outrance et de l'inhumanité. Il faut espérer que les progrès de la civilisation ont mis un terme à cette fatalité et que l'histoire n'est plus un éternel recommencement. À l'inverse, j'étais reconnaissant à leur chef, Jean-Luc Mélenchon, de ne jamais avoir prononcé une parole contre moi, tout au long de cette crise et de mon incarcération. Je ne partage bien sûr aucune de ses idées ou de ses outrances, mais l'homme cultivé qu'il est ne pouvait, du moins je l'espérais, être tombé moralement au niveau de ces deux élus de la nation. Et quels élus ! Là aussi, leur attitude devrait consterner toute personne dotée d'un minimum d'humanité. La visite se prolongea toute la journée. L'administration pénitentiaire était à bout, furieuse de cette manipulation, et bien décidée à me défendre, je leur en étais très reconnaissant. À 16h30, Carla et mon fils Jean devaient se rendre au parloir. On m'expliqua que dans ces conditions, c'était impossible et que la visite serait retardée. Pour combien de temps ? Personne ne le savait. Je me voyais privé de ma famille par la faute de ces deux individus. Je pus finalement les voir en fin de journée, grâce à la compréhension du directeur et des surveillants. Mais quel stress inutile ce fut. Leur visite prouvait qu'à l'évidence, je n'étais pas un détenu comme les autres. Les parlementaires de la France insoumise avaient réussi l'exploit de démontrer l'exact contraire de ce qu'ils avaient souhaité. Détail intéressant, les surveillants m'ont confié qu'à aucun moment, ces élus d'ultra-gauche ne les avaient interrogés sur leurs conditions de travail et sur le choix qui était le leur d'avoir intégré la pénitentiaire. Visiblement, la vie des travailleurs de la prison ne les intéressait en rien. Ils n'avaient pas gagné beaucoup de voix avec cette visite. Cela me réjouissait beaucoup. La vie quotidienne continuait à son rythme monotone. La cérémonie de la douche, après le sport, était particulièrement cocasse. Je n'avais jamais connu une installation plus incommode. Par la crainte sans doute qu'un détenu ne se pende. Il n'y avait pas de pommeau, mais seulement un petit filet d'eau qui coulait presque le long du mur. On ne pouvait se mettre au-dessous, il fallait essayer de se placer à la bonne hauteur juste en face. Mais ce n'était pas la seule difficulté. Le pire était que ce mince filet d'eau s'interrompait très vite, comme une minuterie. Il fallait sans cesse retrouver le bouton et le presser pour que l'écoulement de l'eau reprenne. Ainsi organisée, la douche prenait le triple du temps nécessaire en situation normale. Elle ne produisait en revanche aucun des plaisirs habituels à ce moment salvateur, après un exercice physique intense. Cela n'avait rien d'un drame, mais participait de l'inconfort général. J'étais en prison, je n'étais pas prêt de l'oublier. Tous ces détails de la vie quotidienne me ramenaient à la réalité du jour. C'était la mienne. Il y avait un autre élément qui rendait la situation étrange. On m'avait affecté une cellule qui pouvait, si nécessaire, recevoir des détenus à mobilité réduite, par exemple des personnes en fauteuil roulant. C'est ce qui expliquait que le seul miroir de la cellule était solidement fixé au mur à une hauteur qui me permettait de bien voir tous les détails de la ceinture de mon pantalon. En revanche, je devais me plier en deux pour me coiffer ou tailler ma barbe. Ces exercices quotidiens devenaient acrobatiques. J'étais soulagé qu'il n'y ait aucun témoin de mes ablutions, tant j'avais parfaitement conscience du ridicule de la situation. Bien sûr, ce ne sont que des anecdotes qui pourront paraître dérisoires, mais en détention, les choses les plus simples et les plus naturelles prennent une toute autre dimension. J'étais en train de m'adapter, rien n'était plus acquis, tout devenait un défi. Il en allait de même avec la curieuse habitude de l'administration d'éclairer la cellule durant la nuit sans que je n'aie jamais compris la régularité de ces flashs de lumière. La cellule était plongée dans le noir absolu et se trouvait soudainement baignée de lumière. C'était surprenant et assez dérangeant. Sans doute était-ce dû à l'inquiétude quant à l'intégrité physique des détenus en général et à la mienne en particulier. J'avais fini par m'y faire et à ne plus m'en trouver réveillé. J'avais par ailleurs bien d'autres choses en tête qui pouvaient me préoccuper. Ces questions matérielles n'étaient que des détails. J'ai déjà dit combien j'étais reconnaissant envers toute mon équipe d'avocats pour la qualité de leur travail, pour leur engagement sans faille à mes côtés et aussi pour les sentiments profonds et sincères qu'ils me témoignèrent. Je ne changerai pas. Je suis construit ainsi. J'ai besoin de ces rapports humains, de cette proximité, de ces échanges loyaux et confiants, de ce supplément d'âme que représente l'amitié. J'ai bien conscience qu'il s'agit chez moi d'une force et en même temps d'une faiblesse. Une force, parce que les liens avec mon équipe sont indestructibles. Une faiblesse, car mon amitié peut me conduire à être faible, à ne pas me séparer à temps de personnes en bout de course ou à trouver des excuses à certaines insuffisances. J'ai déjà évoqué mes liens avec Jean-Michel Darroy, mais je veux évoquer ceux que je partage avec son associé, Christophe Ingrin. Je l'ai connu lorsqu'il était l'adjoint de Patrick Huard, mon conseiller justice à l'Élysée. Ancien magistrat, juge d'instruction devenu avocat associé dans le cabinet de Jean-Michel Darroy, il a pris une place décisive dans ma défense. J'appréciais son travail acharné, son intelligence vive, son sérieux intangible et son expérience irremplaçable de cette si particulière matière pénale. J'aurais dû le faire intervenir plus tôt. Mon amitié avec Thierry Herzog m'avait aveuglé sur la possibilité qui était la sienne d'embrasser un dossier qui avait pris une telle ampleur. J'avais sous-estimé le travail de recherche et de déconstruction du dossier à charge bâti par les juges d'instruction et le parquet national financier. Quel que soit son talent et son dévouement, il ne pouvait aider de sa seule collaboratrice à approfondir toutes les directions que nous aurions dû explorer. Christophe Ingrin et ses deux collaborateurs, Tristan Gauthier et Isaac Arnoux, représentaient une toute autre puissance de feu. J'étais confiant dans leur capacité, d'autant plus qu'ils s'y ajoutaient la hauteur de vue de Jean-Michel Darroy. J'étais cependant le seul responsable de ce retard à l'allumage d'une défense réellement structurée. Mon amitié a ainsi pu me porter préjudice. C'est une leçon que je n'oublierai pas. Être dans mon équipe de défense était devenu un enjeu au sein d'une profession où la concurrence est exacerbée et où les égos autorisent certains coups bas. J'ai reçu de nombreuses propositions d'aide de la part de ténors du barreau. Certaines étaient désintéressées, se traduisaient par des prises de position publiques en ma faveur, ce qui était appréciable et utile. Je remerciais chacun avec ferveur. D'autres m'étaient recommandés par des amis sincères, mais peu au fait des complexités de la procédure pénale. J'appréciais ses intentions. Je recevais chacun, mais je me méfiais de ces pressions amicales qui risquait de déstabiliser mon équipe, et cela, je ne pouvais pas me le permettre, alors que nous étions déjà dans la préparation du procès en appel sur le fond. Une amie alla même jusqu'à me recommander d'interroger Éric Dupond-Moretti pour savoir s'il serait d'accord pour intégrer ma défense. Je déclinais sans aucun état d'âme cette étrange proposition. D'abord parce que je ne pensais pas que choisir l'avocat le plus détesté des magistrats aurait été, dans ma situation, un choix particulièrement pertinent. Ensuite, parce que j'ai toujours trouvé sa personnalité sans finesse. Et je ne souhaitais en aucun cas utiliser ce que l'on appelle parfois les défenses de rupture. Je voulais le droit, et rien que le droit. J'aspirais à ce que l'on m'applique celui-ci, dans sa rigueur, sans que je ne sois considéré ni au-dessus ni en dessous des lois. Enfin, ce bretteur n'avait rien trouvé de mieux que de m'attaquer violemment au moment où le tribunal décidait de me jeter en prison, me reprochant d'adopter un système de défense à la Trump, un comble venant d'un homme connu pour ses outrances. Je confirmais donc à mes avocats la confiance que j'avais en eux, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Nous avions obtenu la peine exceptée. Beaucoup de satisfaction du jugement du tribunal correctionnel. Le travail de mes conseils avait porté ses fruits sur bien des aspects, puisque j'avais été relaxé de 3 des 4 infractions pour lesquelles j'avais comparu devant le tribunal, et pas des moindres. Puisque j'étais relaxé des délits de corruption, de financement illégal et de recel de détournement de fonds publics qui constituaient les faits les plus graves.